l'hémisphère sud au nord, après le Brésil, Villemont traverse l'océan Atlantique, puis la mer Baltique, pour jeter l'ancre à l'ouest de la Russie, à Saint-Pétersbourg. Après Rio, le corps en fête, voyage encore dans le corps des villes. À Saint-Pétersbourg, bon voyage sur France Culture sans frontières.
Alors entre septembre 2012 et août 2016, France Culture consacre une émission à faire découvrir à ses auditrices et à ses auditeurs une série de villes. À raison d'une émission hebdomadaire d'un peu plus de 50 minutes par semaine, cette série documentaire, rassemblée donc sous la dénomination de Ville-Monde et produite par Catherine Libert, dresse des portraits de villes. Toutes celles qui font l'objet d'un épisode, à raison d'un ou deux parfois par ville, présentent une certaine importance, soit en taille, soit en nombre d'habitants, ou encore d'un point de vue symbolique. Et leur choix manifeste une volonté de couvrir, plus ou moins, de façon plus ou moins équilibrée, mais avec des déséquilibres qu'il s'agirait de chiffrer, les cinq continents, tant et si bien qu'au terme de cet ensemble, qui témoigne de l'importance croissante des villes dans l'histoire humaine, à travers ces portraits urbains radiophoniques, c'est en somme rien moins qu'un portrait sonore du monde citadin contemporain qui est proposé. Alors, si le portrait de pays ou de ville présente une série d'avatars qui tiennent au médium par lequel ils se trouvent mis en forme, hein, c'est la problématique de ce colloque, que présentent de spécifiques ces déclinaisons sonores et plus particulièrement radiophoniques? Étant entendu, ça va de soi que la création sonore ne se réduit évidemment pas au radiophonique. À la différence de ces déclinaisons, les plus anciennes et éventuellement perçues comme plus naturelles et qui sont issues de la tradition picturale qui est le creuset du genre du portrait sur un plan historique, eh bien, cette forme médiatique, donc la forme radiophonique, présente cette spécificité de ne pas relever au premier abord, ou en première instance du moins, du domaine des images ou plus largement de la culture visuelle, à la différence de la peinture, bien sûr, de la photographie, bien entendu, mais aussi du cinéma, de la télévision et également, encore que d'une autre façon, de l'exposition. Au regard de ces domaines, la radio, réduite en première instance au seul registre sonore, peut passer pour un art aveugle. Sans doute n'est-elle pas le seul, hein, à la littérature, et bien que l'écriture sous ses différentes formes relève en toute rigueur du domaine visuel, la littérature relève également d'un autre ordre. Toutefois, d'une part, pour différencier littérature et radio, le texte peut se combiner avec des images, photographiques ou non, et notamment pour proposer des portraits de pays, mais en outre, le portrait constitue de longue date, à partir du XVIIe siècle au moins, un genre littéraire à part entière qui est fondé certes sur le modèle pictural, bien qu'il ne relève pas de l'ordre des images ou qu'il n'en relève que de façon métaphorique, à moins qu'il n'intègre des images effectives. Tel n'est pas le cas de la radio, sauf, j'introduis cette nuance parce qu'elle me paraît quand même importante, même si je vais fondamentalement pas en tenir compte, sauf dans les formes qui accompagnent la diffusion, type les magazines, les programmes, etc., ou encore sur Internet, notamment sur le site de France Culture, puisqu'il va s'agir d'une émission de France Culture. Alors, eu égard à cette absence des images, qui apparaît tout de même comme une spécificité relative du médium radio, quels sont les moyens proprement radiophoniques mis en œuvre pour parvenir à répondre aux attendus du portrait et aux tropes spécifiques de ce genre qui est de tradition et d'inclination initialement visuelle? Qu'en est-il, par exemple, des modes opératoires de rendu d'une identité, de la quête de ressemblance ou encore du souci de l'authenticité qui caractérise le portrait dans un contexte de production et de diffusion tel que celui de la radio, et tout particulièrement d'une radio à vocation culturelle et patrimoniale telle que France Culture? Ce supposé défaut d'image est-il d'ailleurs effectif? En réalité, non, dans la mesure où les réalisateurs et les réalisatrices de ces documentaires portraituraux y pallient en passant par d'autres truchements, notamment le regard des personnes interviewées qui sont très régulièrement invitées à décrire l'environnement dans lequel elles se trouvent et dans lequel se réalise la captation de leurs paroles. Alors pour tenter de rendre compte de cette déclinaison radiophonique du portrait de ville, et sur la base d'un échantillon d'une quinzaine d'émissions que j'ai prises au début et à la fin de la série, ce que je vais essayer de vous proposer, c'est de cerner tout d'abord les indicateurs de généricité qui affleurent dans les épisodes de la série Ville-Monde, afin de souligner leur manière spécifique de convoquer la tradition portraiturale et de s'y inscrire du coup pleinement, en jouant des moyens du bord, et en particulier de ceux de la voix, puisque vous allez voir, ce sera le second temps de mon propos, que la construction de ces documentaires qui sont éminemment polyphoniques constitue un des ressorts de la quête d'identité qui s'y opère, en jouant sur une multiplicité de points de vue, en même temps que de voix et d'accents. Et toutes ces voix et ces accents, vous allez le constater, je dois dire que ça m'a un peu surpris à force d'écouter l'émission en série pour préparer ce topo d'aujourd'hui. Ces personnes ne sont pas n'importe quelles personnes. La plupart des personnes interrogées sont curieusement, en tout cas en première instance, des écrivains. Et donc je m'interrogerai dans un troisième temps sur la place qui est donnée à la littérature dans ces portraits radiophoniques de ville. Alors le genre du portrait de pays ou de ville est longtemps resté une tache aveugle dans les cartographies génériques communes, ce qui tient au caractère relativement restreint de son institutionnalisation. Pardon. Dans la perspective d'analyse du discours qui est celle de Dominique Magno, c'est un genre, le genre du portrait au sens très large, qui se différencie de genres proprement auctoriaux qui sont identifiés de longue date par la critique. Et ce genre, on l'a rappelé déjà dans l'introduction, mais je vais reciter le passage parce que je crois qu'il est important, en tous les cas il est important pour, en ce qui concerne ma manière de percevoir le portrait et de l'aborder, c'est un genre qui en fait relève plutôt de ce que Dominique Magno appelle l'hypergenre, et ce qu'il désigne par là c'est, je le cite, des catégorisations comme lettres, essais, journal, dialogue, qui permettent de formater le texte. Ce n'est pas un dispositif de communication historiquement défini, mais un mode d'organisation textuelle aux contraintes pauvres qu'on retrouve à des époques et dans des lieux divers et à l'intérieur duquel peuvent se développer des mises en scène de la parole très variées, en particulier, vais-je ajouter à cette citation, en particulier selon les médiums et selon les moyens qu'ils sont en mesure de mettre à disposition. Cette plasticité explique le caractère relativement peu codifié du genre, dans sa forme discursive du moins, et plus fondamentalement, le caractère assez diffus de sa généricité, qui est assez peu marqué. On trouve assez très rarement des indications comme « portrait de pays », sous les titres des portraits de pays, comme on peut en trouver comme « roman »,« nouvelle », dans d'autres cas de figure. Alors, cette généricité, elle est également diverse, on va le voir, dans ses formes, comme dans ses localisations. Mais elle se constitue toutefois dès le titre de ces émissions, qui sont, les titres des émissions, sont des épisodes, pardon, sont systématiquement énoncés au début. Chaque épisode est en effet intitulé, de façon très simple, par le nom de la ville qu'il s'agit de présenter aux auditeurs et aux auditrices. Donc, chaque fois le nom de la ville, New York, Macao, Kinshasa, ce que vous voudrez. Ces titres peuvent apparaître relativement anodins et purement informatifs, mais en réalité, dans leur simplicité, ils adoptent ce qui constitue la forme minimale du titre de portrait, qui consiste à donner au portrait le titre de ce dont il est le portrait. Si je fais une photographie de Jean-Pierre Monthier, la photographie va s'appeler Jean-Pierre Monthier, comme lui, puisqu'elle est là pour se substituer en quelque sorte à sa présence. À quoi s'ajoute, donc ça c'est relativement évident, à quoi s'ajoute presque systématiquement l'adjonction d'un élément caractérisant et typifiant censé être spécifique à une ville, qui est lui aussi typique de la tradition du portrait et dès sa tradition, dès ses formes picturales. Alors je vous fais un petit florilège, j'en ai choisi 5 à peu près au hasard. J'énonce les titres. Macao, un Disneyland de l'Europe latine en terre chinoise. Belfast, le goût de la ville retrouvée. Vienne, la ville de l'esprit. Dubaï, toujours plus. Vancouver, la ville du futur. Voilà, et c'est à peu près comme ça tout le temps. Comme en témoignent ces titres, il s'agit dans ces documentaires non seulement de prendre connaissance d'un sujet, en l'occurrence une ville, mais plus précisément de tenter de cerner son identité de façon synoptique, donc en une seule saisie, et cela en vertu de la principale finalité qui sous-tend toute entreprise portraiturale. Au demeurant, si l'émission, au regard des documents dont j'ai pu prendre connaissance, n'est jamais présentée globalement comme une série de portraits de villes, le terme de portrait est à plusieurs reprises utilisé au sein des épisodes, et en particulier tout naturellement à l'entame des émissions, ainsi de celles consacrées à Dublin, dont je vous passe un petit extrait.
Ville monde Dublin, portrait de la ville en artiste.
Welcome to Dublin. In English, I mean.
Maïlys Besserie, Charles Trou.
Alors c'est une formule qu'on va retrouver dans certains documentaires, donc qu'on retrouve parfois à la fin des émissions. Et pour vous montrer qu'en fait, cette recherche de singularité potentielle, elle n'est pas en fait très effective, puisque à propos de Dublin, on a une caractérisation très similaire pour Rio de Janeiro, avec un petit côté aguicheur en plus, hein, vous allez voir.
On est en Amérique du Sud, on est au Brésil, on est à Rio de Janeiro, la plus belle ville du monde, comme l'écrivait Zweig dans ses écrits de voyage. Portrait de la ville en artiste et en jeune femme, en écrivain, Rio, la cité des femmes.
Alors, de telles indications ne participent pas tout à fait d'une forme analogue à la mention du genre romanesque à l'entame d'un roman, par exemple. Mais il n'en reste pas moins que, tout en relevant de manière plus proprement journalistique de poser la généricité, bien ces indications, ces mentions qui sont inscrites dans le chapeau de l'émission, ce n'est pas vraiment le début de l'épisode, ça se situe juste avant, ces indications orientent la perception et l'écoute qu'on est censé avoir en posant un horizon d'attente générique qui est censé nous parler à partir d'une forme dont on a tous une connaissance plus ou moins précise. Alors bien évidemment, ce caractère portraitural en passe également par la nature, et principalement, bien sûr, par la nature même de ce qui est donné à entendre. En première instance, eh bien, on constate que des enregistrements ont été réalisés sur les lieux, ce qui paraît assez naturel, sur les lieux que l'émission entend dépeindre, et ils permettent d'appréhender différents types d'environnements sonores urbains, en extérieur ou en intérieur, et donc le field recording constitue un moyen proprement sonore du portrait de ville pour en percevoir l'atmosphère d'un point de vue auditif, à travers les sons qui sont générés dans différents types de réalités, différents types d'environnements de la ville. Au fond, et tout excès dans l'analogie gardée, ben, ces prises de son, elles tiennent lieu en quelque sorte de photographie sonore, puisqu'elles revêtent une fonction analogue aux photographies présentes dans certains livres, en suppléant à l'absence des images. Mais cette matière première, cette matière sonore ne s'impose pas véritablement à l'avant-plan, d'une part parce qu'elle n'est pas mise en avant véritablement, elle est la plupart du temps utilisée pour opérer une transition et situer une atmosphère, et d'autre part parce que, je dirais d'un strict point de vue quantitatif, même s'il y a quelques secondes parfois où on est vraiment dans le pur son d'ambiance, la plupart du temps elle est mise au second plan par rapport aux dialogues et aux interviews qui sont réalisées. De façon générale, ces documentaires radiophoniques sont constitués de façon telle que c'est la voix qui prend le pas sur les sons par rapport au son du lieu. Ces portraits en passent, sur une formule qui est assez courante dans le documentaire radiophonique, par une série d'interviews de différentes personnes qui se relaient au micro avec fréquemment en guise de fil conducteur vocal les questions et donc la voix récurrente de l'intervieweur ou de l'intervieweuse. Et ce modus operandi qui n'a rien de particulièrement spectaculaire induit une double portraituralité à l'œuvre sur le plan de l'énoncé comme sur celui de l'énonciation, puisque ces discours qui sont suscités par des interrogations en passent par des portraits très sommaires et minimaux des personnes qui sont censées répondre aux questions et donc qui fournissent la matière première discursive de ces documentaires, puisque pour bien situer la parole qu'on est en train d'écouter, il faut bien dire de quelle personne il s'agit, et donc énoncer son nom la plupart du temps, et éventuellement sa profession et son lien à la ville. Donc c'est très sommaire, mais il y a des portraits des personnes qui sont appelées à s'exprimer et qui en fait ce sont celles qui portraitisent leur ville et qui sont invités à le faire selon des modalités, des formes que je vais vous expliciter un petit peu maintenant. Ce cœur verbal, donc dialogique, de la texture des épisodes de Ville-Monde propose donc un portrait assez polyphonique de ces villes en agençant plusieurs points de vue qui évoquent des réalités diverses relatives à la ville présentée et qui doivent donc permettre de saisir l'esprit ou l'âme de la cité, selon des termes qui donc réfèrent directement à la tradition du portrait et qui en même temps sont ponctuellement utilisés, mais toujours on le sent bien dans le ton de la voix, avec des sortes de pincettes, bon, sans doute en raison du caractère un petit peu connoté et sans doute aussi suranné de cette terminologie. Alors, ces paroles qui se succèdent se voient assigner la tâche de décrire de différentes manières, par une description spatiale, par un récit historique éventuel, par des anecdotes ou par des considérations sur l'esprit des lieux et des gens qui y vivent. Ces paroles donc doivent décrire de différentes manières, et donc selon un montage et un cadrage qui est issu des réalisateurs, eh bien, l'identité de la ville dépeinte, en rendant compte des trois dimensions qui sont constitutives, me semble-t-il, des lieux et des portraits qui en rendent compte, à savoir, on l'a rappelé aussi dans l'introduction, l'espace pour la dimension géographique, l'histoire pour la dimension historique et les habitants pour la dimension, disons, entro-ethno et sociologique. Ces portraits se présentent comme des émissions qui tablent sur une série de propos qui relèvent de genres de discours distincts, mais le premier à s'imposer, c'est évidemment l'entretien, qui assure une fonction de générateur en même temps que de matrice ou de scénographie, dans la mesure où la trace de l'entretien est presque systématiquement conservée. On entend en effet toujours, presque toujours, les questions des intervieweurs et des intervieweuses qui sont, là encore, presque systématiquement adressées en français. Et ces questions, en tout cas, peut-être pas au moment où le live est enregistré, mais en tout cas au moment du montage. Ces questions, elles assurent le point de contact entre cette texture verbale, avec la texture verbale à laquelle, on peut le supposer, la plupart des auditeurs et des auditrices sont plus accoutumés, donc le français. En vertu du rôle qui est assigné la plupart du temps aux intervieweurs, ils servent de relais entre la personne qui écoute ou qui lit et la personne qui est interrogée, eh bien, ces voix françaises jouent un rôle de relais, de médiation, d'un environnement sonore éloigné dans l'espace et avec lequel l'auditeur est censément moins familier. Alors, le travail réalisé sur la langue, ou plutôt sur les langues, vous allez voir, contribue pleinement à la facture de ces documentaires. Ces propos, qui sont donc réunis à la faveur d'entretiens réalisés in situ, participent de cette syntaxe discursive qui est destinée à assurer le petit côté couleur locale sur le plan phonétique, avec le soutien d'un doublage qui se décline de plusieurs manières en opérant non seulement sur les langues parlées, mais également sur les accents. Toutes les combinaisons semblent adoptées à cet égard au sein d'ailleurs des mêmes épisodes, hein, c'est pas seulement au sein à l'échelle de la série. On rencontre dans le même épisode donc aussi bien des locaux qui répondent dans leur langue qu'en français, et avec le plus souvent aussi un accent plus ou moins prononcé, mais on rencontre aussi des locaux qui s'expriment dans leur langue avec des doubleurs locaux qui les doublent en français avec donc leur accent local, ou des doubleurs francophones qui restituent les propos des locaux avec un accent cette fois plus familier aux auditeurs et aux auditrices, toujours s'agissant des doublages avec un léger décalage qui permet donc d'entendre assez nettement, même au moment du doublage, la voix et donc l'accent, le timbre et la tonalité de la personne interrogée. Alors je vous passe un extrait sur Londres et puis un extrait sur Vienne où on a deux cas de figure assez différents, mais c'est juste à titre d'illustration.
One of the projects we did was we closed a bridge. We closed Southwark Bridge down here, and we had a feast on the bridge. We closed it so that we could turn it from a place which is otherwise just used for traffic and could be used as a place where people could meet, congregate, perhaps be encouraged to talk to people that they hadn't met before. And we did it by laying out banqueting tables over the whole length of the bridge. And providing,
une des choses qu'on a faites et qu'on fait chaque année dans notre festival, c'est qu'on ferme un pont et on permet aux gens de venir sur ce pont. On met des grandes tables de banquet et chacun amène à manger et puis offre, partage avec les autres.
Vous voyez l'idée. Alors dans le cas de l'extrait relatif à Vienne, on a cette fois un Viennois qui s'exprime en français.
Les gens traversent cette place. Il y a quelques-uns qui se rendent compte de la qualité de cet espace, les autres pas du tout parce qu'ils ont les têtes et les oreilles ailleurs.
Alors, ce travail donc sur la langue conjugue la ou les langues locales, mais qui sont entendues tout de même, des locaux qui parlent français et qui font ainsi par le biais. Alors je vous fais un petit peu le schéma que j'ai proposé, où on passe d'une plus grande proximité avec le lieu qui est dépeint à une plus grande proximité avec le lieu d'où on l'écoute. Hein, c'est une sorte d'échelonnage assez sommaire et que j'essaierai de présenter de façon un peu plus lisible, mais qui me semble au fond rendre compte de la tension inhérente au portrait entre l'immersion dans ce dont on fait le portrait et d'autre part les nécessaires éléments de reconnaissance et de familiarité qui sont également nécessaires. Alors, les manières d'agencer donc les voix des intervieweurs et celles qui répondent aux questions manifestent à première vue un caractère relativement hétéroclite. Hein, au sein d'un épisode, on a aussi bien qu'à l'échelle de l'ensemble des émissions, donc aucune forme à première vue de systématisme ne paraît se dégager, puisqu'on passe d'une formule à l'autre sans nécessité apparente. Et par ailleurs, on peut raisonnablement supposer que les options qui sont retenues à tel ou tel moment de l'enregistrement et de l'émission et du montage tiennent pour une part à des paramètres circonstanciels, disponibilité des traducteurs, capacité linguistique des personnes interviewées, etc., mais aussi aux nécessités du montage, par exemple la nécessité d'opérer ou le souhait d'opérer un raccord thématique, par exemple. Cette panoplie d'options destinées à rendre intelligibles les propos suscités et rassemblés, elle revêt une logique dont j'essaye de rendre compte ici, qui a trait à l'un des impératifs du genre du portrait, qui est celui de la recherche d'une certaine forme d'authenticité ou de véracité. Cette logique me semble relever d'un continuum entre la quête d'une parole qui est issue des habitants du lieu et des parlures plus familières au public, qui sont celles des réalisateurs de l'émission et plus largement des acteurs de France Culture. Fondamentalement, il s'agit de donner la parole à ceux qui font partie intégrante de la ville des Pintes, ses habitants, qu'ils en soient originaires ou non, et par conséquent à des personnes qui font aussi, elles aussi, l'objet du portrait. Leur discours participe donc du portrait sur le plan de l'énoncé, en fonction de ce qu'elles disent, comme sur celui de l'énonciation, en fonction du simple fait que ces personnes s'expriment en tant qu'habitants de la ville, qu'ils sont censés mieux connaître que n'importe qui, et certainement mieux qu'un étranger. À travers cette manière d'opérer, il y va d'une mise en œuvre particulière fondée sur les langues et les accents, donc mise en œuvre de cette tension constitutive que j'évoquais à l'instant, du genre du portrait, entre d'une part la tentation que j'évoquais hier, la tentation autoportraitiste du portrait, c'est-à-dire son inclination à estomper, voire à faire disparaître le portraitiste au profit de ce qu'il portraiture, de donner la parole à ses habitants en supposant que personne ne saurait mieux qu'eux rendre compte de la réalité de la ville dans laquelle ils vivent, et d'autre part la prise de distance tout aussi nécessaire du portrait avec son objet, non seulement de façon à en garantir une certaine objectivité, mais aussi pour permettre à celui qui prend connaissance du portrait de ne pas se sentir démesurément dépaysé et par conséquent de pouvoir se sentir concerné ou interpellé par celles et ceux qui l'écoutent discourir à propos de l'identité d'une ville qu'ils connaissent normalement de première main. Mais donc, qui sont-ils, au juste, celles et ceux qui sont interviewés dans le cadre de cette émission ? Outre la texture de leur voix et la langue à laquelle ils ont recours, leur identité n'est bien entendu pas du tout indifférente. Et là, le choix est assez évident quand on écoute quelques émissions. C'est un choix qui n'est pas du tout dû au seul hasard des rencontres et des opportunités, puisque la majeure partie des personnes qui prêtent leur voix à l'occasion de ces portraits radiophoniques, dont les habitants en question, les habitants de ces villes, sont en effet des acteurs culturels, je dirais presque systématiquement, à 80 à 90 ou 90% des cas de figure. Artistes, conservateurs ou directeurs de musées, architectes à l'occasion, musiciens éventuellement, alors ils font écouter leur musique, mais aussi et surtout des écrivains. Alors pour autant que je puisse en juger, la proportion des personnes présentées m'a paru à moi assez saisissante, à des écrivains présentés. Je ne suis pas en mesure de le chiffrer à ce stade, d'autant que je vous l'ai dit, je travaille sur un échantillon d'une quinzaine d'émissions, mais pour ces émissions-là et les quelques autres que j'ai écoutées en plus, je suis pratiquement certain que la proportion d'écrivains par rapport à toutes les autres types de figures publiques se situe au-dessus de 50%. Ça veut dire plus d'une personne sur deux est un écrivain, ce qui est quand même assez étonnant, me semble-t-il. Bon, j'essaierai de chiffrer ça de façon un peu plus consistante. Et là aussi, ça se vérifie non pas seulement à l'échelle de l'émission dans son ensemble, mais à l'échelle de chaque épisode. Alors, parmi de nombreux autres, l'émission consacrée à la ville de Vancouver, c'est une des dernières, semble assez exemplaire de la place et des fonctions qui sont assignées aux écrivains dans le discours de Ville-Monde. La première personne mentionnée parmi celles qui apparaîtront dans le documentaire n'est autre que l'auteur américain William Gibson, dont il est spécifié que ce n'est pas un hasard qu'il s'est installé dans cette ville. C'est un auteur américain. Vancouver est présenté comme la ville du futur, et lui est présenté comme l'inventeur du cyberpunk, et on explique donc qu'il était parfaitement tout à fait conséquent qu'il s'installe dans cette ville pour, je cite, en faire le décor majeur de son œuvre. Deuxième extrait, cette fois on a affaire à un écrivain canadien qui a fait connaître sa ville à l'étranger. Il s'agit de Douglas Copeland.
Son surnom le plus récent, la ville le doit à l'écrivain qui l'a fait connaître à l'étranger, Douglas Copeland, en compagnie duquel nous conclurons l'émission.
Voilà, et ça c'est annoncé.
Son surnom le plus récent, la ville le doit à l'écrivain.
C'est annoncé dès le début de l'émission, hein, pour qu'on sache qu'il va arriver. Donc il y a une sorte de figure d'écrivain qui est posée au début et une autre qui est annoncée pour la fin, qui effectivement va surgir. Alors ce positionnement stratégique, début et fin de l'émission, qui est explicité ici à l'entame de l'épisode, n'est bien sûr pas absolument systématique, mais il me semble rendre parfaitement l'esprit dans lequel les écrivains sont mobilisés pour construire le discours de ces portraits de ville, des villes où ils vivent, jusqu'à faire de Villemonde, à mon sens, une émission de facture très majoritairement littéraire, et conjointement des villes portraiturées, des villes elles aussi littéraires, marquées, chacune de ces villes est marquée par ses écrivains et par le regard qu'ils ont posé et continuent de poser sur elles. Et dans ce contexte, les écrivains vont proposer des points de vue, des regards singuliers, empreints d'une certaine imagerie, systématiquement et parfois assez lourdement, je dois dire, placés sous le signe du littéraire. Et c'est de toute évidence ce que recherchent manifestement les concepteurs de ces émissions, avec un côté très systématique qui semble donner à penser que ça relève d'un cahier des charges, implicite ou non, le cahier des charges qui régit leur travail, le travail donc des réalisateurs et des réalisatrices de ces émissions, qui vont parfois jusqu'à mettre en scène, dans leur discours, leur opiniâtreté. Il y a un passage qui m'intéresse beaucoup concernant l'un des deux épisodes consacrés à Moscou, où le narrateur explique qu'il s'est adressé premièrement à un écrivain qui lui a dit que Moscou ne l'intéressait pas particulièrement d'un point de vue littéraire, et du coup il trouve une autre solution qui est elle aussi littéraire, vous allez voir.
L'écrivain Dmitri Bykov, à ma demande de me raconter son Moscou depuis la cour de l'école où il enseigne, m'a répondu sèchement « Moscou ne m'intéresse pas en tant qu'écrivain ». Choisissons donc un autre point d'observation sur l'anneau des boulevards depuis l'appartement très haut perché de la poétesse Tatiana Shcherbina.
Voilà, ça ne marche pas avec un premier écrivain, bah, du coup on va s'adresser à une autre et aller dans son appartement. Alors les réalisateurs dans ce cadre, cette mention donc du refus d'un écrivain qui est suivi de la solution toute trouvée mais qui est finalement la même, hein, peut-être que ça c'était pas nécessaire de mentionner le premier, ce qui prouve bien qu'il y a une recherche de la mise en évidence d'entrer en contact avec des écrivains. Donc inclination forte de l'émission à donner la parole à ces êtres culturels d'un genre particulier que sont les écrivains. Alors à travers ces auteurs, une figure, donc, et corollairement le discours dont cette figure est le visage, bien, la littérature, donc, l'écrivain et la littérature sont convoqués et remédiés dans un contexte médiatique spécifique, celui de la radio, et évidemment en fonction des finalités propres de la radio. Mais se pose toujours la question, je ne suis pas sûr d'avoir trouvé une réponse complètement satisfaisante, en tout cas moi elle me laisse un petit peu sur ma faim, mais enfin, je vais vous proposer ce que j'ai sous le coude. Hein. Pourquoi des écrivains plutôt que des jardiniers, des banquiers ou des sportifs? Alors, plusieurs explications potentiellement convergentes se dessinent pour rendre compte de cette inclination littéraire de l'émission. Il est toujours possible, d'une part, raisons pratiques, par exemple celles qui conduisent manifestement les réalisateurs à s'adresser pour réseauter sur place aux instituts français. Alors, est-ce que les instituts français ont des contacts particuliers avec les écrivains locaux? Je n'en sais rien, mais ça ferait partie des choses que je vais essayer d'éclairer. Est-ce que cela tient à un tropisme lié à la formation et au background sociologique des journalistes de France Culture? On peut le penser, mais je n'ai pas encore d'éléments suffisamment consistants. Ce que je sais, en revanche, c'est que la productrice de l'émission est très impliquée dans la promotion du livre et dans toute une série d'institutions et d'associations qu'elle a formées pour promouvoir la diffusion du livre. Donc j'imagine que c'est quelque chose à quoi elle est particulièrement sensible. D'autre part, deuxième élément d'explication, assez banal et probablement assez évident, la question de l'effet de notoriété s'agissant d'écrivains connus, ce qui est toujours évidemment bon à prendre pour éveiller l'intérêt d'une frange du public qui pourrait ne pas être particulièrement intéressée par l'émission. Mais le problème qui se pose, hein, pour apporter une nuance à cette explication, c'est que tous les écrivains interrogés ne sont pas connus ou pas connus du public francophone et que dans certains cas, ils ne sont même pas traduits. Hein. Donc, ce qui me donne à penser que ce qui est vraiment recherché, c'est le statut d'écrivain, hein, d'un point de vue, je dirais, purement symbolique. Et par ailleurs, alors là, ce serait également à vérifier, troisième élément d'explication ou esquisse ou tentative, c'est que, compte tenu de la finalité portraiturale de l'émission et de la part qu'elle fait reposer sur le discours verbal, est-ce qu'il n'y aurait pas l'idée qu'en tant qu'artisans de la langue, les écrivains seraient plus à même, juste ou fausse, hein, mais l'idée que les écrivains seraient peut-être plus à même de s'exprimer au micro d'une façon satisfaisante que des personnes qui ont moins l'habitude de manier le langage. Voilà, tout simplement. À cet égard, donc, concernant cette place de la littérature et des écrivains dans les portraits de ville de Villemonde, le portrait de Dublin me semble témoigner d'un tropisme littéraire parmi les plus accusés des émissions que j'ai pu écouter, puisque la capitale irlandaise se trouve, vous allez voir, présentée à son entame comme la ville de naissance de nombre d'écrivains. On a l'impression que c'est une pouponnière à hauteur.
Mais c'est la ville natale de Oscar Wilde, la ville natale de Samuel Beckett, la ville natale de George Bernard Shaw et la ville natale de Robin Doyle.
Tout écrivain dont il sera... Ça lit, c'est vrai ce qu'ils disent, hein, ils ne mentent pas. Mais alors, évidemment, la figure tutélaire de l'émission, c'est évidemment James Joyce, qui est sous le signe duquel est placée toute l'émission, à tel point que, là, je n'ai pas fait six figurés d'extrait, mais il y en a deux au moins intéressants, parce que tous les auteurs, et je dis bien tous les auteurs interrogés dans l'émission, sont invités à parler de l'auteur d'Ulysse, et plus particulièrement de celui de ses romans, qui est véritablement, au sein de l'émission, institué comme le livre phare de Dublin. Et deux d'entre eux, deux de ces écrivains, sont invités à lire un extrait de Joyce sur l'un des lieux qui est dépeint dans Ulysse. Et dans les deux cas, la journaliste fait passer un extrait de Joyce, lisant lui aussi Ulysse. Et alors les auteurs sont invités à commenter son accent et son phrasé. Ils parlent beaucoup des accents dans cette émission. En l'espèce, le caractère littéraire de cette radiophonie portraiturale ne tient donc pas seulement au regard posé sur leur ville par ces écrivains contemporains, mais aussi à une plongée, comme le montre l'exemple de Joyce, dans le regard posé par des écrivains du passé, dont des citations et des allusions ne cessent d'émailler l'émission. En particulier, au début et en fin d'émission, vous avez une espèce de concentré de citations et d'allusions littéraires. Alors je vous en passe une série d'extraits. Tout d'abord, le portrait de Moscou, qui commence comme il se doit pour un écrivain, enfin pour des auditeurs francophones, par une mention de Tchekhov, suivie d'une allusion à la prose du Transsibérien
de Sandra. Point de départ du Transsibérien, qui a fait rêver tant de voyageurs, traversant tout le pays jusqu'à Vladivostok, l'extrême Orient russe. Moscou, la ville aux sept collines, comme Rome, aux sept sœurs, la ville des 1003 clochers et des sept gares pour le poète Blaise Cendrars dans sa prose du Transsibérien.
Autre exemple, ouverture du portrait de Lima au Pérou, sur une mention de l'Amérique au jour le jour, qui est un journal de voyage tenu par Simone de Beauvoir lors de son séjour aux États-Unis dans l'immédiate après-guerre. Alors, vous voyez bien qu'il y a une tentative de se raccrocher à n'importe quoi, parce que manifestement, ils n'ont rien trouvé sur Lima. Donc, ils partent de l'Amérique, très très généralement, et vous allez voir comment ils tournent le bidule.
Voyageant en Amérique, nous traversons Las Vegas, nous filons parmi les pins et les cactus. Comme dans ces mots de l'Amérique au jour le jour de Beauvoir, notre voyage en Amérique continue aussi, mais nous en Amérique du Sud. Après Las Vegas, nous descendons la côte ouest sur le Pacifique. Nous filons jusqu'à la ville-monde que Melville décrivait comme la ville la plus étrange du monde, avec son brouillard blanc. Là, d'où part le train le plus haut du monde, celui qui file vers les Andes, Lima, au Pérou.
Troisième exemple que je voulais vous passer, celui de Saint-Pétersbourg, vous allez voir, et c'est assez systématique, est exemplaire de la manière dont les références littéraires, je dirais, rejoignent la logique de ce que j'exposais à propos des types de voix et des accents, puisque systématiquement, on va prendre un écrivain local très connu du public francophone et y associer des références d'écrivains français, ou en tout cas francophones, mais essentiellement français, comme c'était le cas pour Tchekhov et Sandra.
Une ville née d'un rêve, celui d'un tsar, on la dirait rêvée par un poète, Pouchkine ou Baudelaire, comme disait Gide. Voyage dans les plis sinueux de la vieille capitale, Saint-Pétersbourg, ville-monde, première escale, bon voyage sur France Culture sans frontières.
Alors le terme de l'émission consacrée à Vancouver, qui est en fait l'avant-dernière émission, se révèle quant à lui particulièrement concentré, vous allez le voir, puisqu'il va combiner des allusions à Paul Valéry, Arthur Rimbaud et Italo Calvino, comme pour mieux signer en fin d'émission ce qui apparaît comme un au revoir ou un pré-au revoir en annonce de la dernière émission qui, elle, va être consacrée assez curieusement, mais en même temps c'est très conséquent avec non seulement la logique de l'émission, mais avec les logiques sérielles, la dernière émission est consacrée aux cités obscures de François Skuyten et Benoît Peters, donc des bandes dessinées portant sur des villes, mais des villes imaginaires, décalquées de villes existantes comme Bruxelles avec Bruxelles dans leur univers. Juste une petite parenthèse pour dire que de nombreuses séries orientées de cette façon-là se terminent souvent par une espèce d'explosion de leur propre modèle. Vous avez le cas d'écrivains de toujours qui, au moment du 100e numéro, fait paraître un volume sur un écrivain totalement imaginaire, Marc Ronsrail. Vous avez également l'émission Un siècle d'écrivains qui, pour son émission de clôture, invente complètement un écrivain imaginaire et donc crée un documentaire sur un écrivain fictif. Et ici, il y a, me semble-t-il, quelque chose qui a rapproché de cette démarche-là en clôture, mais qui n'est pas seulement une déconstruction du modèle, mais en même temps une sorte d'apothéose du modèle, puisque à travers la littérature, de façon quasi systématique, c'est toujours un éloge de l'imagination et du regard imaginatif qui est posé sur les villes, qui est, je dirais, mis en exergue au sein de l'émission. Donc c'est très conséquent qu'ils finissent avec les cités obscures. Donc c'est la fin de l'émission, c'est la transition vers l'émission de la semaine suivante.
Le vent de Vancouver, le vent se lève, il faut tenter de vivre. Dernier voyage, au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Villes invisibles, comme l'écrit Italo Calvino, villes imaginaires. Les cités obscures, ville des bandes dessinées de Peters et Skuyten. Notre dernière aventure commencera au cœur de Paris, ville-monde, métro Arts et Métiers, traversera l'imaginaire et s'achèvera dans les souterrains de la maison de la radio, la maison ronde pour la fin de notre tour du monde, ville-monde. Ville-monde, imaginaire, cités obscures, samedi prochain, 27 août à 19h sur France Culture, dernière ville-monde.
Alors, certaines de ces villes vont être amenées à se voir tout simplement conférer une substance littéraire, et donc leur caractérisation va consister en une forme de littérarisation. Hein, très très régulièrement, au début des émissions et en fin d'émission également, vous avez des villes qui sont présentées de cette façon-là. Valparaiso est par exemple désigné comme ville poésie, et au terme de l'épisode consacré à Odessa en Ukraine, la ville est désignée comme ville roman. Et la transition vers l'émission sur Dublin va faire de Dublin une ville livre. Et ce type de déclinaison, on le retrouve très 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 fréquemment. Ces incipits, donc, et ces clausules de Ville-Monde, de même que les discours qui introduisent ou clôturent les émissions proprement dites dans la grille des programmes, sont systématiquement littéraires et apparaissent tout naturellement comme des précipités en matière non seulement de généricité, mais aussi de discursivité, ou plus précisément de positionnement discursif. Si pour Bourdieu, les acteurs d'un champ se positionnent les uns par rapport aux autres au sein du champ, et bien pour des chercheurs comme Dominique Mingnaud ou Yves Jeanneret, que je suis à cet égard, et bien les discours, les types de discours se positionnent aussi les uns par rapport aux autres. Donc la question que j'aimerais bien essayer de me poser pour approfondir ce caractère très littéraire d'une émission radiophonique, c'est de savoir, au fond, pour quelles raisons ces concepteurs d'émissions radio éprouvent le besoin d'en passer par la littérature et de truffer tout leur discours d'éléments à vocation littérarisante. Je vous ai donné quelques-uns des éléments de réponse dont je disposais pour l'instant, mais je vous avoue que sans trop comprendre encore pourquoi, je ne suis pas complètement satisfait par ces éléments. Et plutôt que de vous proposer une conclusion en bonne et due forme avec un petit nœud au bout du paquet, ce dont je voudrais vous faire part, c'est plutôt des questions que je me pose encore, comme je viens de le faire, et des éléments de perplexité qui sont les miens, pour que vous puissiez réagir et peut-être me donner du grain à moudre par rapport à la façon dont je clôturerai ce travail, en écoutant notamment un nombre plus important d'émissions, même si je pense qu'en fait le canevas est là, c'est une émission tout de même assez formatée. Donc je dirais, bon, outre les lectures que je dois encore faire en termes d'histoire de la radio, et pas particulièrement de la forme documentaire, je vais évidemment me renseigner sur une question à quoi je ne connais à peu près rien, c'est la question du doublage et des accents, pour avoir un outillage théorique un peu plus affiné que ceux dont je dispose pour l'instant. Je dirais que par rapport à de façon plus spécifique, par rapport à la problématisation que je vous ai proposée, je m'interroge sur l'un des éléments qui, moi, me sert de base à chaque fois lorsque j'entame l'analyse d'un portrait de pays, c'est de m'interroger sur la façon dont sont agencés et distribués les trois paramètres que j'évoquais en introduction du colloque et que j'évoquais là tout à l'heure, c'est le paramètre historique, le paramètre géographique et le paramètre humain. Et là, je n'ai pas encore très bien cerné la manière dont les choses s'orchestrent. J'ai l'impression que le plan spatial, tout est évoqué dans les discours des personnes. Ça, c'est sûr, dans les discours des personnes qu'on écoute. Mais quelle est la part proprement sonore du traitement de l'espace? Alors, parfois, on entend des ambiances. La question du temps est pour moi la plus compliquée à gérer, mais comme on a affaire à, selon des catégories qui, évidemment, peuvent être discutées, à un art qui se déroule temporellement, alors que le portrait, un modèle... je dirais une vocation synoptique, puisqu'on est censé saisir en un coup une entité. Alors, cette question se pose là aussi, d'ailleurs beaucoup plus largement pour tout ce qui concerne le film également, et la littérature. Hein. Enfin, c'est des agencements d'éléments disparates et qui, à terme, doivent faire portrait, doivent donner une impression d'unité que cristallise en quelque sorte le titre et la caractérisation dont il est accompagné lorsque le titre se réduit au nom de la ville. Et donc voilà, c'est un petit peu là que se situent mes perplexités. Comment sont traités, c'est ce que j'aimerais bien ajouter dans la version écrite du texte, identifier de façon plus fine et plus systématique la façon dont sont distribués et agencés, eu égard aux contraintes du médium radiophonique, ces trois dimensions du portrait de pays et de ville. Donc, voilà, j'en ai fini. Merci.